des gadgets que j'ai acheté dans les 2 ou 3 dernières années que j'aime le plus chez moi, c'est une radio FM à 50 balles. Je vais me laver le matin, je vais me brosser les dents, j'appuie sur un bouton, la radio est allumée. Tout de suite. Il n'y a pas de temps de connexion Internet. Tout de suite, elle est allumée et j'entends France Info qui sort du haut-parleur.
Mais attends, tu la mets à jour quand tous les combien cette radio
Jamais. Magnifique. Jamais elle a été connectée à Internet, puisqu'elle ne peut pas se connecter à Internet. Je dois monter ou baisser le son. Il y a un bouton, un gros bouton. Je veux éteindre la radio, j'appuie sur un bouton et elle s'éteint. Tout ça fonctionne sans Internet, tout ça fonctionne sur 3 piles. Et ça me procure chaque matin quand je vais prendre ma douche et chaque soir quand je vais me brosser les dents plus de plaisir que m'ont procuré tous les outils informatiques que j'ai pu toucher dans la journée. Il y a un feedback immédiat. Il y a un couplage de l'interface humain-utilisateur qui est parfait. Puisque j'appuie sur un bouton, j'ai une réaction immédiate. Je tourne un potentiomètre, j'ai une réaction immédiate. En plus, c'est satisfaisant. Il y a des crans qui correspondent au volume. Bordel, l'écran qui se souvient de ça. Enfin, merde, quoi. Se dire qu'une radio Sony en plastique à 60 balles a une interface humain-utilisateur plus plaisante et plus immédiatement tactile et plus immédiatement viscérale hein, et plus immédiatement à la fois humaine et machinesque que des merveilles de technologie à 2000 balles. Ça montre quand même qu'on a un souci.
Le pire contre-exemple que j'ai en tête et qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est ma télévision. Parce que j'ai tout fait pour la déconnecter d'Internet, j'ai jamais mis d'identifiant parce que c'est une smart TV. Le mot smart n'a jamais été aussi dévoyé, mais c'est une smart TV et elle veut absolument que je la connecte à Android et à Internet, à ce que tu veux, ce que j'ai toujours évidemment refusé parce que merci, mais j'ai mon Apple TV, ça me suffit comme boîtier. Et il arrive quand même que des fois en l'allumant, bah, elle essaie de se mettre à jour. Une télévision. Et donc pour ça, tu peux pas utiliser l'écran, tu vois. Donc tu as un écran monumental qui affiche 4 petits logos, tu vois, qui se poursuivent parce qu'elle n'arrive pas à se connecter à Internet, parce qu'elle est trop conne pour ça, tu vois. Et du coup, c'est... Je sais pas s'il y a quelque chose de plus frustrant. Enfin, je pense que si, mais c'est assez frustrant sur l'échelle de la frustrance. Imagine ton frigo se ferme et tu peux pas l'ouvrir parce que, bah, en fait, il y a une mise à jour, tu comprends?
J'ai acheté ma première télé il y a quelques années et je regarde pas la télévision, elle est uniquement branchée à un Apple TV. Et cet écran domine physiquement mon salon, alors que c'est un petit modèle, mais c'était le plus petit modèle que je pouvais avoir avec ces spécifications-là pour tester l'Apple TV 4K. Cet écran, donc physiquement, est imposant, il marque sa place dans l'espace. Il est con parce que 99% du temps, c'est juste un truc noir qui prend de la place et qui marque son territoire. Un peu comme une bagnole, quoi. Exactement comme une bagnole dans l'espace public. Qui passe 90% de son temps à dormir et à privatiser de l'espace public et ça sert à rien. Et quand ça fonctionne, ça pollue et ça emmerde le monde. Exactement pareil. Et quand tu l'allumes, j'ai toujours ce petit moment. Je sais pas. Tu as cette grande dalle de verre qui affiche tout un tas de trucs sur lesquels t'as aucune prise. Et parfois, je suis terrorisé par ça. C'est pas un truc que je peux jeter par la fenêtre. Alors, heureusement, je peux encore la débrancher. Mais parfois, je suis un peu terrorisé par ce qu'on. Enfin, quand je m'arrête 2 secondes et que je réfléchis à ce qui se passe, c'est peut-être un des objets dans ma vie sur lequel j'ai le moins de prise. Et je trouve ça proprement terrorisant.
Je pense que c'est terrorisant non pas seulement parce que tu n'as pas forcément, enfin, t'as pas la prise dessus que tu voudrais, à part la prise électrique, mais je pense que c'est très intrusif en fait. Et comme tu dis, tu parles de la voiture, c'est un bon exemple. Et tu vois, je rebondis sur la voiture parce que j'arrive pas à garder une pensée claire pendant plus de 5 minutes. Mais l'idée de la voiture pour la technologie, pour moi, est vraiment très proche. C'est d'un côté une illusion. Enfin, en fait, non, c'est pas d'un côté, c'est une seule chose. C'est l'illusion du pouvoir, l'illusion grisante du pouvoir. Il doit y avoir un mot pour ça, peut-être hubris, je sais pas si c'est tout à fait ça. On te donne ce joujou magnifique et rutilant qui va très très vite. Et t'as l'impression que c'est toi qui vas vite, mais non, tu es dans ce véhicule qui va vite. Et l'outil informatique, c'est un peu la même chose, tu vois. J'ai l'impression d'être méga réac quand je dis des choses comme ça, c'est terrible. Mais ton iPhone, tu vois, bon, bah, tu vas sur Internet, tu vois, en deux secondes, tu trouves l'information, t'es jamais bloqué, tu vois, tant que t'as du réseau et ce genre de choses. Arrive le moment où t'as plus de batterie, c'est compliqué, quoi. Tu dois redéfinir tes priorités dans l'existence, tu vois ce que je veux dire, d'un seul coup. Et t'es renvoyé aussi à toi qui est, qui, tu croyais être, tu vois, un peu comme la première tenue, tu vois, tu croyais être habillé, et en fait, bah, t'as pas grand-chose, quoi.
Mais la voiture, c'est un bon concentré,
Ouais.
c'est un bon résumé de tout ce dont on vient parler, parce que tu es au volant de ta bagnole. L'outil n'a pas de volonté propre, mais enfin, l'outil informe quand même vachement ta pratique. Tu es dans un truc qui va vite. L'interface qui est autour de toi, la rue a été conçue pour toi. Elle t'invite à aller vite, puisqu'on est suffisamment con pour avoir fait des deux fois deux voies, y compris en ville, sans chicane, avec des virages pas du tout à angle droit, mais des virages où tu peux tourner et écraser un piéton sans jamais avoir mis ton pied sur la pédale de frein. Sur les grands axes, en plus, on a des ronds-points, donc tu peux même continuer à foncer et tourner sans jamais avoir ralenti. Donc tout t'invite à aller vite. Ta voiture, elle n'a cessé de grossir, de grossir, de grossir, de grossir, soi-disant pour protéger les autres, mais en fait, c'est surtout pour protéger ce qui est à l'intérieur. Et l'interface humain-machine à l'intérieur de la voiture souffre de tous les problèmes des interfaces humain-machine informatiques.
Et en pire, si c'est possible.
Ah ben, en pire, tout simplement, parce que, en pire parce que tu es dans une arme balistique. Tu es
Oui,
dans un
voilà.
projectile à 130 à l'heure. Donc c'est encore
Donc c'est
pire
dur
de ne
à
pas avoir de
utiliser et
contrôle.
en plus tu bouges trop vite pour... Oui, je vois très bien ce que tu veux dire.
C'est d'autant plus grave de ne pas avoir de contrôle là-dessus, mais
Extrêmement grave.
c'est quand même terrible que dans une Tesla, il n'y ait pas de bouton pour régler la clim. Donc pour régler la clim, un truc qui se fait facilement avec un potard, il faut lever les yeux de la route et regarder un putain d'écran et potentiellement tuer quelqu'un.
Oui, mais tant qu'on est au frais, hein.
Mais parce que les écrans tactiles, c'est beau, et les écrans tactiles, c'est moderne. Voilà.
Ah, j'ai sous les yeux le poster que tu m'as offert avec les noms de chansons pour les rues. Et enfin, la carte de la ville comme ça. Et la plus grande des rues, c'est Highway to Hell. Ben, si ça y ressemble pas, c'est que j'ai mal vu.
Parfois, c'est ça. Hein. Mais c'est intéressant parce que, grande réflexion que j'ai en ce moment, c'est enfin, autour du vélo et on est en train de créer une catégorie mobilité sur MacG. Je m'intéresse aujourd'hui beaucoup aux questions environnementales et à comment on fait évoluer la technologie dans un sens qui est plus durable. Et l'antidote à la bagnole, c'est le vélo. Un des antidotes à la bagnole, c'est le vélo. Et c'est marrant parce que le vélo, c'est l'antithèse. On est dans le tangible, même dans le vélo assistance électrique, il faut mettre un peu de muscle, il faut mettre un peu de sueur pour que le vélo avance.
C'est vrai. Ouais.
Et d'ailleurs, j'adore les vélos électriques parce que, notamment les vélos électriques avec le moteur qui est dans le pédalier, parce que pour que le moteur te rende de l'énergie, il faut mettre de l'énergie dans la pédale.
Oui, j'aime beaucoup la sensation que ça provoque.
Et
Ouais,
donc
ouais,
y a un couplage total entre l'homme et sa
ouais.
machine.
C'est exactement ce que, pour moi, et c'est intéressant que tu dises ça, peut-être que tu allais le dire après, donc j'espère que je t'enlève pas les mots de la bouche. Mais encore une fois, Steve Jobs, quoi, sur la bicyclette pour l'esprit. Et je pense que le mot bicyclette est choisi avec beaucoup de discernement. C'est pas la voiture pour l'esprit. C'est pas le poids lourd pour l'esprit.
Non, et parce que ça, mais sa réflexion était, et c'est là où tu vois que le mec était brillant et que le vélo est important, c'est l'outil qui transfigure les capacités énergétiques de l'homme. C'est-à-dire que l'homme piéton n'est pas une machine efficace quand tu le compares à un aigle. L'homme sur un vélo, c'est une terreur dans le règne animal. Il n'y a pas plus efficace qu'un homme sur un vélo. Et j'aime bien, même la Dresienne, la Dresienne était vendue comme un appareil qui permettait de marcher plus vite.
Ah, j'aime beaucoup.
Et donc on est vraiment hein, dans le couplage total de l'interface homme-machine. Hein. On est vraiment dans ce qu'on peut faire de mieux en conception des interfaces.
Et totalement dans l'antithèse de la béquille, justement, dont on parlait au début,
Oui.
qui empêche le mouvement, justement. Ah, c'est super intéressant.
Et ce que j'aime beaucoup dans le vélo, c'est tu veux aller plus vite, tu pédales plus vite. Tu veux aller plus lentement, tu pédales plus lentement. Tu veux tourner, tu te penches dans la direction dans laquelle tu veux tourner. Ce qui d'ailleurs ne fonctionne pas en moto. Hein, en moto, c'est l'inverse. Hein. Tu veux tourner à droite, faut d'abord tourner à gauche.
Je crois que c'est pour ça que je pourrais jamais faire de moto parce que j'ai essayé le bateau au moment l'optimiste et tu sais, je me prenais toujours la baume dans la tête.
Ouais.
C'est terrible, terrible, je déteste ça.
Et donc je me dis quelque part, comment est-ce que on peut avoir des interfaces humain-machine numériques, des interfaces dans des objets électroniques? Qui ressemble à un vélo et sur lesquels on puisse agir comme on peut agir sur un vélo. C'est facile de régler toi-même ton vélo, en plus. Dans un monde du tout jetable, c'est peut-être un des rares objets sur lequel on peut encore bricoler assez librement.
Et quand il déraille, tu peux remettre la chaîne, quoi.
Tu peux régler toi-même ta hauteur de selle, tes freins, des choses comme ça. Enfin, je trouve ça assez enthousiasmant. Et donc je me demande quoi, comment est-ce qu'on peut revenir à cette conception de l'ordinateur comme bicyclette pour l'esprit? Et pas seulement dans le fait que, de la même manière que la bicyclette transfigure les capacités énergétiques de l'homme, l'ordinateur transfigure ses capacités mnémoniques, mais aussi comment est-ce que on peut mieux incarner l'informatique, on peut avoir des interfaces qui suggèrent beaucoup mieux leur usage, et une interface qui est plus facile à réparer quand tu casses, qui est beaucoup plus résistante d'ailleurs, beaucoup plus tolérante, beaucoup plus résiliente, beaucoup plus tolérante à l'erreur. Bref, enfin, comment on peut faire du vélo informatique, quoi? Ça fait partie des choses qui me tiennent éveillé la nuit, hein, vraiment.
Je crois que c'est vraiment fascinant et je crois que c'est aussi une. Je crois que vraiment le danger est toujours le même et c'est très intéressant que Apple s'appelle Apple, tu vois. J'envisage pas Android parce que ça n'existe pas. Mais la tentation est toujours la même depuis le début, tu vois, la pomme de la connaissance, du bien et du mal, ce genre de choses. Comme Pascal le dit, j'aime beaucoup cette citation, l'homme n'est ni ange ni bête et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. En langage courant, ça s'appelle péter plus haut que son cul. Mais c'est ça en fait, c'est que le risque énorme, et on tombe fréquemment dedans, c'est que on réserve l'informatique à une caste ou à une espèce d'usage un peu éthéré, un peu en dehors du corps, qui n'autorise pas l'erreur, qui n'autorise pas en fait, qui n'a pas cette humilité d'autoriser l'expérimentation en fait.
Et c'est encore pire avec le nuage, parce que maintenant, quand tu fais une erreur sur un appareil, l'erreur est propagée sur tous.
Ouais, c'est vraiment irrémédiable. Et cela dit, je fais une très très légère parenthèse et je suis désolé de t'interrompre. J'étais surpris de la fonction qui est arrivée, je crois, dans iOS, peut-être 10, 12, de faire une corbeille de 30 jours pour les photos.
C'est vrai, c'est vrai.
Ça m'a vraiment
Mais
surpris.
ça me rend le nuage assez désagréable de te dire, je mets ça dans les mains de ma mère. Potentiellement, dans la semaine, elle perd toutes ses photos. Ou elle met suffisamment en vrac sa photothèque que je sois obligé d'intervenir pour elle et d'aller les récupérer, comme tu le dis, dans la corbeille, dans le nuage. Et donc, sous couvert de faire des choses plus pratiques, plus modernes, plus faciles, on a fait des choses encore moins résilientes, encore moins flexibles, encore moins adaptées au fait qu'à la fin, on ait des sacs de chair et d'os.
Et parenthèse, plus cher
Et
aussi.
puis.
Parce que ça se paye vachement cher cette merde.
Pour ne rien arranger, en plus, tu dois payer une redevance pour avoir l'insane privilège d'utiliser ton ordinateur.